Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Le Monde Aujourd'hui, édition du mercredi 11 août 2021. Jean-Roger Billon à ce micro. Bonsoir à tous. À la une de nos informations, le Soudan va remettre Omar el-Béchir et d'autres anciens dirigeants recherchés à la Cour pénale internationale. Les Zambiens sont appelés aux urnes demain jeudi pour les élections générales. La présidentielle se joue une fois de plus entre le chef de l'État sortant, Edgar Lungu, et son rival de toujours, Hakainde Hichilema. Au moins 65 morts en Algérie avec des incendies qui ravagent le nord du pays. Le barreau d'honneur du président Ashraf Ghani en Afghanistan, il s'est déplacé à Mazar-i-Sharif pour encourager la résistance face à l'avancée des talibans. Ne manquez pas dans cette session d'information la Minute Éco et les sports, mais tout d'abord le journal. Le Soudan va remettre à la Cour pénale internationale trois anciens dirigeants parmi lesquels l'ex-président déchu Omar el-Béchir. Ils sont recherchés notamment pour génocide et crimes contre l'humanité lors du conflit au Darfour, a indiqué aujourd'hui la chef de la diplomatie soudanaise lors d'une rencontre avec le nouveau procureur général du tribunal basé à La Haye, Karim Khan, en visite à Khartoum. Le point avec Nani Talani.
La ministre des Affaires étrangères, Mariam Al-Mahdi, explique que la décision de remettre les personnes recherchées à La Haye vient du Conseil des ministres. Elle souligne l'importance de la coopération de son pays avec la CPI pour obtenir justice pour les victimes de la guerre du Darfour. Les deux autres anciens dirigeants impliqués sont l'ex-gouverneur de l'État du Kordofan Sud, Ahmed Haroun, et l'ancien ministre de la Défense, Abdel Rahim Mohamed Oussem, recherché pour les mêmes motifs. Arrêtés après la chute de Béchir en avril 2019, ils sont tous actuellement détenus au Soudan. En février 2020, le pouvoir de transition avait pris l'engagement verbal de favoriser sa comparution devant la CPI, qui a émis il y a plus de 10 ans des mandats d'arrêt contre lui et d'autres figures de l'ancien régime pour crimes contre l'humanité et génocide au Darfour. Un accord de paix historique signé en 2020 entre le gouvernement de transition et des groupes rebelles insistait aussi sur la nécessité d'une coopération complète et illimitée avec la CPI. La semaine dernière, le Soudan a voté en faveur de la ratification du statut de Rome de la CPI. El-Béchir est aussi jugé par la justice soudanaise pour son rôle dans le coup d'État qu'il a porté au pouvoir en 1989.
Au Niger, Human Rights Watch dénonce l'assassinat de plus de 420 civils depuis le début de l'année dans l'ouest du pays, dans des attaques menées par des groupes djihadistes qui ont également contraint des dizaines de milliers de personnes à fuir. Des groupes islamistes armés semblent mener une guerre contre la population civile dans l'ouest du Niger. Ils ont tué, pillé et brûlé, sémant dans leur sillage mort et destruction et brisant des vies, selon Corinne Doufka, directrice chargée du Sahel à Human Rights Watch. 9 attaques documentées par Human Rights Watch ont été menées entre janvier et juillet dans des villes, villages et hameaux des régions de Tillabéri et Tawa. Plus de précisions tout à l'heure dans la partie magazine de cette édition. En RDC, un soldat a tué par balle 2 officiers avant d'être abattu lors de son arrestation ce mercredi à Beni, dans l'est du pays. 3 civils ont par ailleurs été tués dans une nouvelle attaque attribuée aux ADF, les forces démocratiques alliées. Les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri sont placées depuis le 6 mai en état de siège pour lutter contre les groupes armés qui terrorisent les civils. Le président Félix Tshisekedi a remplacé les autorités civiles par des officiers de l'armée et de la police. Au Congo voisin, un journaliste de Brazzaville, critique du régime du président Denis Sassou Nguesso, a été libéré aujourd'hui après avoir purgé une peine de 6 mois de prison ferme pour diffamation. Le journaliste, directeur de l'hebdomadaire satirique Sel Piment, avait été arrêté en février dans une clinique où il suivait un traitement et condamné à 6 mois de prison en mai. Il avait été reconnu coupable d'avoir diffamé Georgette Okemba, épouse de l'amiral Jean-Dominique Okemba, conseiller spécial du président Sassou Nguesso, qu'il accusait d'avoir détourné 1 milliard de francs CFA du trésor public. Dernière ligne droite pour les élections générales en Zambie. Les 2 principaux candidats à la présidentielle ont bouclé leur campagne aujourd'hui, à la veille d'un scrutin qui s'annonce serré. Le point avec Jacques Aristide.
Il est surnommé HH et il croise le fer avec Edgar Lungu, le président sortant, dans la capitale Lusaka. L'opposant Haikande Shilema a appelé les 7 millions d'électeurs zambiens à faire changer le gouvernement pour sortir de cette économie effondrée. Ce sont ses mots. L'homme d'affaires de 59 ans demande à la commission électorale de garantir un scrutin libre et équitable. Laissons le peuple zambien décider qui le dirigera, ajoute l'autodidacte. Haikande Shilema affronte Edgar Lungu pour la troisième fois. L'équipe de campagne du chef de l'État sortant, âgé de 64 ans, fait part de sa volonté d'améliorer les infrastructures et de conserver dans le pays les richesses liées aux mines de cuivre. Mais les difficultés économiques ont érodé le soutien à Edgar Lungu, accusé d'avoir emprunté de manière insoutenable pour financer des projets d'infrastructures tape à l'œil, alors que le coût de la vie montait en flèche.
Le dirigeant sud-africain Cyril Ramaphosa a reconnu aujourd'hui la corruption généralisée de l'État alors qu'il était le vice-président de Jacob Zuma, affirmant qu'il n'avait pas démissionné car cela aurait entravé ses efforts pour résister à ce fléau. Un rapport accablant publié en 2016 sur la corruption généralisée sous l'ère Zuma de 2009 à 2018 détaillait comment la fratrie de Gupta, appartenant à une riche famille d'affaires d'origine indienne, proche de l'ancien président Zuma, a remporté de lucratifs contrats publics et participé à la gestion des affaires de l'État, notamment la nomination de ministres. Le bilan des incendies en Algérie s'est alourdi à 65 morts, dont 28 soldats. Des pompiers soutenus par des militaires et des volontaires sont mobilisés contre les flammes qui ravagent depuis la veille le nord de l'Algérie. Le point avec Abdourahmane Dia.
Ces incendies que les autorités qualifient de criminels touchent plusieurs régions de Kabylie. Des images impressionnantes accompagnées d'appels à l'aide circulent sur les réseaux sociaux avec des troncs calcinés, du bétail agonisant, asphyxié et des villages assiégés. Le porte-parole de la protection civile, Nassim Bernawi, a dit aujourd'hui à la presse que 69 foyers d'incendie au total étaient encore actifs dans 17 préfectures. Les plus importants se trouvent à Tizi Ouzou, qui a également connu le plus de pertes humaines. Depuis mardi, des appels à l'organisation de convois de solidarité avec les habitants des villages de Tizi Ouzou se multiplient sur les réseaux sociaux. Plusieurs camions sont partis de la capitale, Alger, transportant du matériel offert par des citoyens et des commerçants. Alors que l'Algérie fait face à une vague de chaleur extrême, des vents propagent les feux et compliquent la tâche des secouristes, selon un responsable local des forêts cité par l'agence officielle APS. En 2020, près de 44 000 hectares de forêts sont partis en fumée. Les autorités avaient annoncé avoir arrêté plusieurs auteurs d'incendies criminels.
Les participants au dialogue interlibyen se rencontrent aujourd'hui en visioconférence pour un nouveau round de négociations sous les auspices de l'ONU en prévision des élections législatives et présidentielles prévues en décembre. Cette nouvelle réunion intervient un mois et demi après l'échec de la dernière session qui s'est déroulée en Suisse entre les 75 membres du Forum du dialogue politique libyen, alors que le pays est en proie au chaos depuis la chute de l'ex-dirigeant Muammar Kadhafi en 2011.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le président américain Joe Biden va réunir les 9 et 10 décembre prochains, en virtuel, un sommet pour la démocratie auquel seront conviés des chefs d'État et de gouvernement et des membres de la société civile, selon un communiqué de la Maison-Blanche ce mercredi. Il entend, après une année, réunir à nouveau les mêmes participants, mais cette fois en personne, autour de trois objectifs: lutter contre l'autoritarisme, combattre la corruption et promouvoir le respect des droits humains. En Afghanistan, les talibans poursuivent leur offensive et contrôlent désormais plus d'un quart des capitales provinciales du pays. Face à la gravité de la situation, le président afghan Ashraf Ghani est arrivé ce mercredi à Mazar-i-Sharif, la plus grande ville du nord, pour remobiliser les troupes. Le point avec Mohamadou Mfa.
Avec la chute de Faizabad, capitale de la province du Badakhshan, tombée aux mains des talibans, les insurgés contrôlent désormais 9 provinces sur 34, dont 7 situées dans le nord du pays, une région qui leur avait pourtant toujours résisté. La situation devenant critique, surtout dans le nord, où les forces de sécurité paraissent complètement démoralisées, le président Ghani s'est rendu à Mazar-i-Sharif. Il s'y est entretenu avec Mohamed Atanour, homme fort depuis longtemps du Nord, qui a promis de résister jusqu'à la dernière goutte de sang. Les insurgés qui convergent de plusieurs directions vers Mazar-i-Sharif ont attaqué mardi des quartiers à la périphérie immédiate de la ville, mais ont été repoussés selon des témoins. La perte de Mazar-i-Sharif serait catastrophique pour le gouvernement qui n'aurait plus aucun contrôle sur toute la moitié nord du pays. Des violents combats ont aussi éclaté mercredi près du centre-ville de Kandahar, la deuxième plus grande ville du pays, encerclée depuis plusieurs semaines. Les talibans ont essayé d'approcher la prison de Kandahar pour en libérer leurs camarades prisonniers sans y parvenir.
À présent, la minute éco avec Rosine Mounizero.
Le conseil d'administration du FMI approuve la signature d'un programme de 3 ans avec la RDC qui prévoit des réformes et des conditionnalités pour permettre le décaissement $1,5 milliard. L'accord vise à aider le pays à soutenir la reprise après la pandémie, à préserver la stabilité macroéconomique et à relancer la dynamique des réformes pour stimuler une croissance durable et inclusive. Après une récession en 2020, la première depuis 25 ans, l'Afrique devrait enregistrer une croissance de 3,2% en 2021. Le Maroc, le Kenya, le Ghana, l'Égypte et l'Afrique du Sud devraient réaliser les plus fortes croissances du continent, portées par la reprise de la demande mondiale, la reprise des cours de matières premières et du pétrole. L'Afrique attire également des investisseurs mondiaux en raison de sa vaste base de ressources et de ses options de marché inexploitées. Récemment, le Royaume-Uni s'est engagé à investir 4,5 milliards de dollars sur le continent d'ici 2022. Soutenu par Old Mutual Investment Group Malawi, Ulimi Fund s'engage à financer au cours des 5 prochaines années l'activité Gala Agriculture Company, un investissement qui intervient près de 14 ans après le financement des activités de la firme agricole selon l'agence Ecofin. Le montant engagé n'est pas dévoilé, mais cet investissement permettra à Gala Agriculture de développer sa production et d'améliorer ses installations au cours des 5 prochaines années.
Place maintenant au sport avec Yacouba Ouédraogo.
Bonsoir à tous. Objectif Ligue des champions, Lionel Messi et le Paris Saint-Germain, par la voix de son président, ont clamé leur envie commune de gagner la coupe aux grandes oreilles lors de la présentation de la superstar ce mercredi à Paris. En provenance du FC Barcelone, Messi s'est engagé avec le PSG pour 2 saisons, avec une année supplémentaire en option. Les fans du PSG profitent déjà bien de l'arrivée de la Pulga. Bagassi-Coura.
Accueil vraiment chaleureux pour Lionel Messi lorsqu'il fait son apparition aux abords du Parc des Princes, le stade du PSG, accompagné du patron du club, Nasser Al-Khelaifi. Une foule en délire qui n'en rêvait pas mieux. Et pour que son arrivée à Paris devienne une réalité, Messi l'a avoué. Son ancien coéquipier au FC Barcelone, Neymar, et 2 de ses coéquipiers en sélection ont beaucoup pesé sur son choix.
Évidemment, l'une des motivations, ça a été le vestiaire. Ney, Di Maria, Paredes, tout le vestiaire. Même si je connais beaucoup de monde, j'ai eu des contacts avec certains quelques fois et ça a beaucoup pesé dans mon choix de rejoindre ce club.
Les dirigeants du PSG, eux, ont une double raison d'engager l'attaquant de 34 ans. Messi redonne une nouvelle dimension à leur projet, à la fois sportive et économique. Du côté du terrain, la présence de la Pulga rapproche Paris de son rêve de gagner la Ligue des Champions. Pour cela, son riche propriétaire qatarien et les fans du PSG espèrent vraiment que Lionel sera le Messi, lui qui l'a emporté 4 fois.
Je viens avec beaucoup d'enthousiasme, avec de l'envie. Et mon objectif et mon rêve est de soulever une nouvelle fois la Ligue des Champions et c'est ce qu'on va essayer de faire.
En attendant cette Ligue des Champions, la Messi Mania ne faiblit pas à Paris. Des supporters sont venus dès l'aube faire la queue devant les boutiques du club pour être certains de pouvoir acheter un maillot floqué de son nom et du numéro 30.
C'est la première fois que je viens aussitôt acheter un maillot d'un joueur. Et on parle quand même de Messi, donc du coup, ça vaut le coup quand même.
Pour le prochain match, je vais mettre le maillot de Messi, obligé.
Merci, Bagassi. L'arrivée de Lionel Messi au PSG va renforcer l'attractivité du club de la capitale, affirme Virgile Caillet. délégué général de l'Union Sport et Cycle, première organisation professionnelle de la filière sport et loisirs.
C'est peut-être le plus gros coup du football moderne. Là, on est presque encore une dimension supérieure. Vous vous rendez compte, un club va pouvoir aligner sur le terrain Messi, Neymar et Mbappé, du jamais vu, quelque chose d'exceptionnel.
Vigile Caillé, délégué général de l'Union Sport et Cycle.
Page des sports signée Yacouba Ouedraogo.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Jean-Roger Billon de retour avec vous pour le dossier du jour. Au Tchad, le président du Conseil militaire de transition, le général de corps d'armée Mahamat Idriss Déby, a instruit le gouvernement de transition d'organiser le dialogue national inclusif conformément à l'agenda prévu dans la feuille de route du gouvernement de transition. Le président s'exprimait lors de son adresse à la nation à l'occasion de la célébration du 61e anniversaire de l'accession du Tchad à l'indépendance. André Kodmajinga, correspondant de VOA Afrique à N'Djamena, nous en dit plus.
Selon la feuille de route rendue publique par le gouvernement de transition, le dialogue national inclusif sera tenu au mois de novembre et décembre 2021. Le président du Conseil militaire de transition, le général Mahamat Idriss Déby, invite toute la classe politique, la société civile et toutes les composantes sociales à une mobilisation patriotique à la dimension de cet événement.
Dans ce vaste chantier de portée nationale, la contribution de toutes les filles et fils du pays est attendue, car aucune compétence n'est de trop quand il s'agit de poser les balises de la refondation de la nation.
Pour l'opposant Brice Mbaye-Mbaye, président du mouvement des patriotes tchadiens pour la République, le dialogue national est une revendication de tout le peuple tchadien.
Ça fait plus d'une dizaine d'années que le peuple tchadien, à travers les partis politiques, la société civile, réclame à corps et à cri la tenue d'un dialogue véritablement inclusif pour permettre aux tchadiens de déballer l'ensemble de leurs problèmes et d'en trouver de solutions. Si aujourd'hui le président du comité militaire de transition s'est appesanti sur ce sujet en évoquant le caractère inclusif de ce débat, c'est qu'effectivement c'est un message à saluer.
Le général Mahamat Idriss Déby, président du conseil militaire de transition, parle de l'inclusion de tous dans ce dialogue national.
Le dialogue franc et sincère sera ouvert de manière spécifique au mouvement politico-militaire compte tenu de la particularité des problématiques inhérentes à cette préoccupation. Un comité sera très rapidement mise en place à l'effet de définir les modalités pratiques et opérationnelles de leur participation à cette importante rencontre.
L'opposant Laouka Ikraïou Médard se réjouit de la participation des politico-militaires à ce dialogue. Pour des questions de sécurité, il exige que la rencontre soit supervisée par la communauté internationale.
Nous connaissons ce pays. Vous allez être là sans un arbitre. Vous allez dire la vérité concernant ce pays-là qui a tant souffert. Mais peut-être que la nuit, on viendra vous égorger sans qu'on ne s'en rende compte. Donc il faut nécessairement que la supervision de ce dialogue national soit faite par la communauté.
S'agissant de la révision de la charte de la transition et la conférence nationale souveraine et inclusive exigée par la coordination des actions citoyennes Waki Taman, l'opposant Brice Mbaye-Mbaye trouve la revendication un peu exagérée.
Vous vous référez à l'article, si ma mémoire bonne, c'est l'article 112 qui dit que les dispositions de la loi qui ne sont pas contraires à la charte s'appliquent. Ça veut dire que la charte de transition est venue simplement se positionner comme un texte complémentaire à l'ancienne constitution qui est en train d'être appliquée. Donc pour moi, je crois qu'on est installé là dans un imbroglio terrible et la révision ou pas de la charte n'apportera absolument rien du tout. Alors finalement, cette revendication me semble un peu farfelue, s'il vous plaît.
Les réformes de textes en application des résolutions issues de ce dialogue sont prévues de juin à septembre 2022. André Kodumajinga, N'Djamena, pour VOA Afrique.
VOA Afrique, N'Djamena, c'est 93.1 FM au Tchad.
Au Niger, plus de 420 civils ont été tués depuis le début de l'année dans l'ouest du pays, dans les régions de Tillaberi et Tawa, dans des attaques menées par des groupes djihadistes, affirme un rapport de Human Rights Watch. Selon l'ONG, ces tueries ont contraint des dizaines de milliers de personnes à fuir leur localité. Ces groupes ont aussi détruit des écoles et des églises et imposé des restrictions s'appuyant sur leur interprétation de l'islam, dénonce l'ONG. Yacouba Ouedraogo a joint ici à Washington Corinne Doufka, directrice chargée du Sahel à Human Rights Watch.
La plupart des villageois ont accusé l'État islamique qui sont basés à côté de la frontière au Mali. Mais certains autres États qui sont plus proches de Burkina Faso disent que les attaquants pourraient être alliés à l'Al-Qaïda ou Jenim, le groupe Jenim.
Quelles sont les personnes qui sont visées par ces attaques-là?
Les groupes islamistes armés ont effectivement mené la guerre contre la population civile qui oppose leur programme. Et les attaques sont plus tard un punissement pour leur affinité et collaboration avec l'État. Et il y a une dynamique, bien sûr, ethnique dans le Sahel parce que les islamistes ont concentré leur recrutement envers la population peule. La plupart des victimes des attaques de communautés sont les Armas et bien certains clans Touareg.
Pourquoi ce sont ces personnes-là qu'ils attaquent?
Ils ont ciblé les gens qui ont refusé de donner le zakat ou l'impôt islamique. Aussi, ils ont ciblé certains villages qui sont accusés d'avoir tué certains membres de leur groupe. Les gens, disons, les espions djihadistes qui sont allés à leur village. Donc, c'est une représailles contre la population pour cette attaque. Aussi, ils ont ciblé le village qui ont essayé de défendre le village avec les armes de guerre ou bien qui avaient essayé de former le groupe d'autodéfense.
Ces personnes-là devaient bénéficier de la protection du gouvernement. Est-ce qu'il n'y a pas de forces de sécurité dans la zone pour les protéger, d'après votre enquête?
Il y a la force de sécurité nigérienne et la population dit que l'armée essaie de les protéger. Mais le problème, les attaques durent mois et une heure, parfois sont 15 minutes, 20 minutes. Donc c'est difficile que l'armée soit partout à chaque minute. Mais au même moment, la population dit que parfois ils donnent le renseignement, l'information à l'armée et que le temps de réagir est très long et aussi qu'ils ne vont pas poursuivre les attaquants lorsqu'ils ont traversé la frontière au Mali.
Justement, que faut-il faire pour protéger ces populations civiles?
Pour réduire le délai de réponse de l'armée aux villages menacés et peut-être établir un réseau d'alerte rapide et aussi créer le comité formé des civils, des forces de sécurité et des organisations de la société civile. Et aussi, le gouvernement partenaire devrait aider les autorités nigériennes à mieux protéger la population civile qui est menacée.
Corinne Doufka, directrice chargée du Sahel à Human Rights Watch, jointe à Washington.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, à Niamey au Niger, sur le 102.5 FM, 24h sur 24.
Les autorités camerounaises affirment qu'au moins 82 anciens combattants de Boko Haram du Nigeria et du Tchad, ainsi que leurs familles, se sont rendus au cours de la semaine dernière. Les autorités disent qu'ils sont les derniers en date des centaines de militants islamistes qui ont fait défection depuis le mois de mai, lorsque le chef du groupe a été tué. Le Cameroun envisage d'expulser les anciens combattants du groupe, car leur afflux submerge les centres de réadaptation le long de la frontière. C'est un reportage de Mouki Edwin Kinzeka de Yaoundé. Le récit est de Rosine Monezero.
Le gouvernement camerounais a affirmé le 10 août que son centre du Comité national pour le désarmement, la démobilisation et la réintégration à Méri, une ville du nord à la frontière avec le Nigeria, compte 967 anciens militants djihadistes. Il y a une semaine, il y avait environ 700 combattants de Boko Haram et leurs familles dans le centre. Plus de 260 sont arrivés au cours de la dernière semaine. Parmi eux se trouvent 82 anciens combattants de Boko Haram. Les autres sont des femmes et des enfants. Francis Fayengo est le directeur des centres DDR créés par le gouvernement du Cameroun pour accueillir ces anciens combattants. Il soutient que plus de 200 ex-militants sont nigérians. Il s'est exprimé lundi après que le président Paul Biya l'a envoyé rencontrer les anciens militants et évaluer leurs besoins.
Nous sommes venus voir les combattants, ces jeunes femmes et hommes, principalement composés des Nigérians, abondant dans les camps de Boko Haram dans d'autres pays. Leur nombre augmente chaque jour. Nous les accueillons, mais après avoir fait les vérifications nécessaires, nous les renverrons rapidement dans leur pays en raison des bonnes relations que notre pays, le Cameroun, entretient avec notre pays voisin à l'ouest, le Nigeria.
Yango soutient que plusieurs des anciens militants sont des Tchadiens. Il dit que le président Biya avait fourni un espace et des fonds pour la construction d'un plus grand centre DDR à Mémé, une autre ville du nord non loin du Nigeria. Pour lui, le centre de mairie était trop petit pour contenir le nombre croissant de militants de Boko Haram en fuite. La force multinationale mixte du bassin du lac Tchad qui combat le groupe djihadiste affirme de son côté que les anciens militants se sont rendus aux troupes autour de la forêt de Sambisa à la frontière Cameroun-Nigeria, une zone considérée comme le fief de Boko Haram. Le groupe de travail est composé de troupes du Niger, du Cameroun, du Tchad et du Nigeria. Le Nigeria n'a pas publié de déclaration sur les défections des militants. Le Cameroun dit avoir volontairement remis d'anciens combattants au Nigeria à plusieurs reprises, mais que le nombre de ceux qui se sont rendus cette semaine est le plus élevé. Les autorités du Cameroun disent que depuis mai, date à laquelle le chef de Boko Haram, Aboubakar Shekau, a été déclaré mort, le groupe djihadiste Boko Haram et ses combattants sont plus affaiblis et susceptibles de se rendre. Soibou Issa est chercheur spécialiste de Boko Haram à l'université de Maroua. Pour lui, le Cameroun, le Nigeria et le Tchad devraient encourager les combattants qui hésitent encore à se rendre et aider à reconstruire leur communauté. Il affirme que des groupes djihadistes rivaux mènent des actions caritatives autour du bassin du lac Tchad dans le but d'attirer des militants de Boko Haram et de faire en sorte que des combattants rejoignent d'autres groupes terroristes.
Le discours de l'histoire, tel qu'on l'a vu aux abords du lac Tchad, n'est pas que verbal, il n'est pas que cognitif, il s'accompagne aussi des appuis humanitaires, entre guillemets, notamment durant le ramadan dernier, pendant que les organisations internationales faisaient leur distribution, eux aussi, ils faisaient leur distribution.
S'exprimant via la plateforme de messagerie WhatsApp de Maroua, Issa a déclaré qu'il est possible que de nombreux militants veillent se rendre, mais craignent les représailles de la part des combattants djihadistes.
Le Sénat américain vient d'adopter le gigantesque plan de rénovation et de développement des infrastructures. Avant son passage à la chambre basse du Congrès, le président Joe Biden promet que ce plan va transformer l'Amérique. Ce plan de 1 200 milliards devrait être en partie financé par la lutte contre l'évasion fiscale des personnes profitant des crypto-monnaies. Pour en parler, John Lydon a joint Souleymane Bachir Diagne, professeur à Columbia University à New York.
Que c'est une victoire politique majeure pour Joe Biden, comme ça, au début de son mandat, parce qu'en effet, il avait fait une promesse qui avait deux aspects pendant sa campagne. La promesse d'abord de s'attaquer à cette question d'un renouvellement et d'une modernisation des infrastructures du pays, une question qui était une question pendante pendant plusieurs années, d'une part, et d'autre part, la promesse aussi de rétablir un certain climat politique qui permettrait d'avoir consensus minimal entre démocrates et républicains. Il avait donc parié sur la possibilité de faire travailler ensemble et les démocrates et les républicains sur des projets d'intérêt commun. Donc cette fameuse manière politique d'aller au-delà des partis pour s'entendre sur un minimum. Cet aspect-là, effectivement, il a gagné.
On a justement vu que la loi sur ce plan d'infrastructure a reçu l'aval de plusieurs républicains. C'est une chose rare au Congrès américain. Est-ce qu'il y a derrière des visées politiques, notamment quand on sait qu'il y a des élections de mi-mandat qui approchent?
Alors, vous l'avez dit, c'était une chose extrêmement rare d'avoir des républicains et des démocrates votant ensemble de manière aussi massive. Il y avait quelques républicains qui étaient souvent ouverts aux idées démocratiques, mais là, avoir 19 républicains, il y a eu 19 républicains qui ont tous voté pour cette loi, et en particulier, il y a le leader républicain, Mitch McConnell, qui était quelqu'un qu'on voyait davantage comme étant un opposant farouche à des accords de cette nature. Et là derrière, il y a un petit calcul politique. Il y a toujours là derrière une appréciation des résultats politiques. C'est vrai que ces 19 républicains qui ont voté en faveur de la loi ont fait le constat, d'une part, que c'était nécessaire. Il faut bien se rendre compte quand même que tout le monde était d'accord que les infrastructures américaines étaient vieillissantes et que ceci ne favorisait pas la bonne marche de l'économie. Mais il y a aussi le fait qu'ils ne pouvaient pas se soustraire à un vote positif étant donné le fait que l'opinion publique est très, très largement en faveur de cette loi. Alors, se mettre en dehors ou se mettre contre le vote de cette loi, ça pouvait être dangereux politiquement pour eux et aussi nécessaire surtout.
Souleymane Bachir Diagne, professeur à Columbia University à New York, joint par John Lydon. Le Monde aujourd'hui, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Un grand merci à toute la rédaction et à notre équipe de production. Jean-Roger Billon à ce micro. Rendez-vous sur notre site internet voafrique.com et nos pages Facebook, Twitter, YouTube et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Je vous souhaite une excellente